centre du Bushmail au Kasaï oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de le combattre au Kasanga, je pense en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci d'être à l'écoute de la fréquence de la paix. La communauté internationale est prête à soutenir en priorité l'organisation des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo pour respecter la constitution congolaise, a indiqué mercredi à Kinshasa le ministre belge des Affaires étrangères. De l'avis des uns et des autres, ce soutien ne devrait pas empêcher la RDC de financer seule toutes les élections. Par contre, une opinion estime que la RDC devrait plutôt se passer du soutien financier de la communauté internationale. Comment réagissez-vous à ces débats? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appelez au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo est à la technique, Julie Fezabongonda et Thierry Lamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs. Pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs. J.R. Nguembo.
Espoir Namutahari Shunguta, vous avez dit, celui qui finance un projet, c'est celui qui en donne des directives à suivre et on ne peut l'exécuter contrairement à sa bonne volonté. Voilà ce qui met en cause la souveraineté internationale de la République démocratique du Congo. Jacques Biaunda d'Ouvira, vous êtes aussi qui vous. Vous avez dit dans votre message l'apport de la communauté internationale pour la tenue des élections en République démocratique du Congo conformément au délai constitutionnel est à saluer. Néanmoins, la RDC doit revoir sa politique budgétaire en épargnant chaque année un montant pour les élections et cela permettrait au pays de s'échapper aux injonctions extérieures claires. Jean-Robert Casadide Mueneditu, si la communauté internationale insiste pour soutenir les élections, c'est parce qu'il y avait une résistance dans les camps du gouvernement pour la tenue des élections. La RDC a la capacité d'organiser les échéances électorales. Le problème est au niveau de la mauvaise volonté. Cela est remarqué d'abord par les budgets que nous avons ici chez nous, où nous trouvons toutes sortes de minerais et la Côte d'Ivoire, qui n'a que comme richesse le bois, a un budget capable de supporter les élections. Laissez-moi vous dire que nous avons une politique de main tendue et nous sommes en train de mener une vie dans des conditions paternalistes. Vraiment, j'appuie le soutien de la communauté internationale, surtout parce qu'il permet de supprimer certaines contraintes liées aux moyens financiers et d'éviter la moindre occasion qui peut permettre au régime en exercice d'obtenir un glissement pour prolonger les élections. Neville Kalala Moulumba, de qui soutien parlez-vous? De quel soutien parlez-vous? Est-ce financier ou physique, les observateurs? Car si vous vous attendez à un soutien de la part de la communauté internationale, vous devez aussi vous soumettre à leurs injonctions et là, vous ne me direz pas que le Congo est un pays indépendant. Ben Etokwala de Bounia, c'est une bonne initiative à encourager au préalable car le feu brûle quand chacun apporte les morceaux de bois, mais la RDC doit prouver à la communauté internationale et au monde entier qu'elle est aussi à mesure d'en faire plus pour la bonne suite de ce processus électoral tant réclamé par toutes les couches de la population. Cela nous permettra aussi de fixer les esprits sur une bonne, des bonnes avancées de la démocratie. Voilà, une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Après avoir lu ce message, nous allons ouvrir les standards pour accueillir vos points de vue, en tout cas les points de vue des uns et des autres. Maître Sauville, vous êtes déjà à Lubumbashi pour intervenir. 081-890-6315 pour vos interventions en direct.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, par rapport à la thématique de la vie des uns et des autres, ce soutien ne devrait pas empêcher la RDC de financer seule toutes les élections. Alors, une autre opinion estime que la RDC devrait se passer plutôt du soutien financier de la communauté internationale. Comment vous réagissez?
J'estime que Monsieur J.R., pour publier d'abord ce calendrier, il a fallu attendre longtemps. L'opposition à la société civile avait demandé il y a bien une que la publication de ce calendrier. Pour nous, d'abord, le calendrier semble être politique, pas technique. Alors, sur ça, il y a certaines raisons, il faut même réfléchir sur la chose, c'est-à-dire que le montant était gonflé. 1 milliard et 147 millions de dollars, c'est un montant gonflé. Et les élections ne peuvent pas prendre cet argent-là. Alors, pour éviter le glissement, puisqu'il y a eu tentative à tout moment du glissement, il y a d'abord une tentative de la révision constitutionnelle, il y a l'article LA3 de l'article 8 qui a été élagé, qui a été expulsé suite à la pression populaire. Alors, pour les uns et les autres, ils voient que ce calendrier est pour autant faciliter le glissement. Alors, pour ce qui est de la Belgique, j'explique que la Belgique a tout à fait raison, parce que ce qui est constitutionnel, ce sont les élections présidentielles. Ce sont les élections en fait, qui posent problème. Parce que le Congrès ne veut pas que le chef de l'État actuel ne puisse pas aller au-delà de son mandat. Il faut que le 27 novembre, les élections puissent se tenir. Or, puisque le calendrier est préféré, pour qu'il n'y ait pas des alibis, soit disant que c'est à défaut de temps, par manque d'argent, la Belgique a donné cette proposition-là. Mais il n'est pas exclu que s'il y a l'argent, qu'on puisse organiser même les élections pour provinciales à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont de la Belgique, elle a totalement raison. Parce que, d'ailleurs, si on dit que le Congo doit lui-même, la RDC, doit elle-même financer ses élections, c'est toujours normal, parce que nous devons respecter notre souveraineté. Mais il ne faudrait pas oublier que cette souveraineté, cette paix que nous avons maintenant, est une très grande part de la contribution de la communauté internationale. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées en dehors du pays, à Addis-Abeba, à Malabo, si j'oublie bien le nom, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de Lusaka en Zambie, il y a eu des rencontres qui ont été organisées pour acquérir cette paix. Il ne faudrait pas que les Congolais puissent aussi avoir une mémoire courte de cette communauté internationale. Si aujourd'hui nous avons la MONUSCO, c'est le souci de la communauté internationale, voir le Congo récupérer son intégrité territoriale. Si les Congolais sont capables de financer ces élections eux-mêmes, ils ne se posent pas de problème. Mais au cas contraire, pour couper court à toute supplication, à tout procès d'extension, c'est pourquoi la communauté internationale existe, elle est prête à donner l'argent pour qu'il y ait ces élections. Parce que le président, le chef de l'État, en 2016, il fera fait mandat. Et il est prévu dans ce calendrier que le 20 décembre, il y ait prestation de serment. C'est tout à fait normal. C'est pour l'intérêt de la population. La communauté internationale ne voudrait pas que cette paix qu'elle a acquise très chèrement, qu'elle puisse être bafouée, puisqu'il n'y a pas eu organisation des élections présidentielles et législatives. Puisque les Congolais ne sont pas contents, ils peuvent descendre sur la rue et ça va encore continuer.
Voilà.
Ça va encore engendrer d'autres guerres. Et d'autres guerres qui demanderont encore le soutien de cette même communauté internationale.
Voilà, Maître Sonville, nous rappelons une chose pour vous. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on en arrive à la publication du calendrier global. Et aujourd'hui, c'est vrai pour vous, en tout cas, comme tout autre critique ou encore observateur par rapport à la situation, les montants à proposer seraient gonflés inutilement. C'est ce qui a suscité d'ailleurs quelques supputations et quelques spéculations de la part de certains acteurs politique et vous êtes allé plus loin dans votre intervention en nous montrant quelques éléments ou quelques indices pour vous qui au fait donnaient lieu à tendre vers une tentative de déglissement. Alors vous soutenez la position de la communauté internationale qui tient à ce qu'on puisse prioriser d'abord les élections législatives et présidentielles parce que selon vous, en tout cas ce sont là les élections qui sont constitutionnelles. Bon, laissez-nous quand même vous dire que même les provinciales sont aussi constitutionnelles et tant d'autres. Alors, vous avez insisté pour qu'on puisse préserver cette paix chèrement acquise après plusieurs rencontres en Afrique ou encore à l'international. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive au 20 décembre, que tout soit bafoué. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir participé à cette émission et surtout d'avoir apporté votre contribution dans ce débat. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Jean Gombe, bon début de semaine à tous les auditeurs de Radio Paris.
Voilà, vous avez la parole, Maurice. Quel est votre point de vue?
En fait, je disais, comme je l'ai fait publier dans votre journal, que les élections, comme la défense nationale, ou je dirais l'armée, les services d'intelligence, font partie de matières qui relèvent du domaine exclusif de la souveraineté d'une nation. Donc, lorsque on s'étargue d'être souverain et qu'on est incapable d'organiser seul ses propres élections, je pense qu'il faudra remettre en fait en question, en cause même, cette souveraineté.
Oui, mais Maître Maurice, l'État congolais n'a pas dit qu'il est incapable d'organiser, mais la CENI, qui a la responsabilité de pouvoir organiser les scrutins, les différents scrutins en République démocratique du Congo, qui est l'autorité électorale, a présenté le calendrier et en annexe aussi les contraintes liées à l'organisation de ces scrutins. Donc je crois que nous sommes à ce niveau, mais nulle part on a dit qu'on est, les gouvernements s'est prononcé ou pour dire voilà, il ne saura pas mobiliser les ressources pour organiser ces élections.
Nous avions fait un débat ici avec vous sur ces calendriers. J'avais parlé en fait de cette avalanche en fait de contraintes qui sont en réalité des conditionnalités pour tenir ces élections. Partant d'abord du budget, ce budget d'1,2 milliard de dollars américains. Alors, vous savez les conditions financières de notre pays. Nous avons un budget qui est de 5 milliards, mobilisé difficilement même à 5 milliards. Donc, surtout presque de 3 milliards et demi, 4 milliards. Alors, lorsque vous allez prendre 1 milliard 200 millions, que vous allez consacrer aux élections. Je ne sais pas comment vous allez faire vivre les institutions de ce pays. Alors, je disais aussi dans cette émission-là que les élections ne se préparent pas à la veille. C'est comme lorsque on est à l'école. Hein? Un examen ne se prépare pas à la veille. Celui qui veut réussir un examen, c'est celui qui commence à préparer dès les premiers jours de la rentrée. Alors, nous avions dit ici que on pouvait bien épargner si on avait cette volonté. Le cycle électoral est prévu pour 5 ans. Donc, dès le lancement même de ce cycle, on pouvait déjà épargner chaque année. Moi-même, j'avais parlé, je crois, de 20 millions ou 50 millions chaque année. Et on pouvait arriver déjà à un montant en fait, de 250 millions qu'on pouvait quand même faire, en fait, qu'on pouvait bousculer dans d'autres rubriques et constituer les montants nécessaires pour l'organisation des élections. Alors, c'est que, même pour les élections, même pour faire face à une petite épidémie où un plan de riposte est évalué à 4,5 millions, et on vous dit que le gouvernement peut disposer de 5 millions, et les 3,5 millions, c'est demandé en fait aux partenaires de la RDC, et c'est là, nous aliénons maintenant notre souveraineté. Et à quoi bon, maintenant, nous allons toujours nous targuer, et puis même cette communauté internationale, qui est toujours là pour nous assister, pour faire les babysitting, comme le ministre de la Défense sud-africaine le disait, il faut là, et nous sommes au Congo pour faire les babysitting. Non, donc nous devons quand même être humbles et conséquents dans ce que nous disons. Quand nous ne sommes pas capables de réunir des moyens suffisants, nous devons nous mettre autour d'une table. Raison pour laquelle
Maurice,
de défendre les gars.
Oui, Maurice, l'idée, par exemple, qui est avancée par une opinion, au fait de vouloir, au cas où cette contrainte financière persistait, d'impliquer quand même la population à mobiliser les ressources, c'est-à-dire par peut-être une cotisation, une contribution de 1 dollar, bon, ça n'est pas comme ça par la tête. Est-ce que vous partagez cet avis?
Celui qui est initiateur de cette réflexion devrait d'abord commencer par faire l'état de la gestion même de l'État, même parce que c'est un parlementaire. Hein? Il devrait se dire, parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous êtes sans ignorer que 70% de budget de la nation est consommé par les trois institutions qui sont le président de la République, le Parlement et le gouvernement de la République. Vous le savez très bien. On pouvait quand même réduire les freins de vie de ces institutions-là. si on pouvait les ramener, par exemple, un sénateur qui gagne 13 000 dollars américains, ramener même jusqu'à 8 000 ou 7 000, ramener un député qui gagne 10 000 dollars jusqu'au moins à 7 000 ou 6 000, je pense que ça n'est pas commencé. L'exemple n'est pas commencé.
Voilà, donc.
Raison pour laquelle nous avons toujours dit que ces gens-là qui sont allés au Parlement, on n'a jamais vu un jour qu'ils sont sortis parce qu'ils avaient demandé qu'on réduise leurs émoluments et qu'on puisse, par exemple, relever, revoir un peu à la hausse les salaires, par exemple, des policiers. Donc, c'est un problème réel et qui demande un dialogue. Ce dialogue-là, c'est pour résoudre
les
problèmes qui se passent dans les pays en vue d'une organisation. Apaiser les élections, sinon je vous dis que ça sera terrible.
Voilà, Maurice, nous comprenons, je crois qu'il y a d'autres pays africains qui ont déjà essayé de suivre ce chemin que vous venez de proposer. Nous avons vu au Gabon, le président Ali Bongo, réduire les trains de vie de certains responsables au Cameroun de même moment. Donc, c'est que vous proposez également, au cas où aujourd'hui la RDC ne sera pas à même de pouvoir financer toute seule donc les élections, c'est qu'il faut quand même commencer à faire, c'est difficile de faire des coupes budgétaires en ce moment, au moment où la loi financière a déjà été votée, promulguée et déjà les gouvernements l'exécutent. Alors, ne plus que réduire seulement les trains de vie de certaines institutions qui sont, selon vous, budgétivores. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé et vous avez rappelé à chacun de nous que les élections, comme la sécurité et tant d'autres domaines, donc constituent une matière exclusive de la souveraineté. Du moment où, dès lors que nous évoquons à longueur de journée la souveraineté, que le Congo est un État souverain, nous devons être capables aussi de faire face à certains défis. Merci beaucoup. Henri, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Henri.
Ok, monsieur le journaliste, moi je pense que la proposition de la communauté internationale est la bienvenue pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où cette communauté internationale a beaucoup déjà dépensé dans le processus de la démocratisation de notre pays. Voilà pourquoi la communauté internationale insiste beaucoup sur les élections
présidentielles et législatives.
Et les élections législatives qui ont plus d'envie et d'enjeux que les autres élections. Évitant ainsi de retomber encore dans les chaos du passé. Et pour ça, la communauté internationale est en train d'activer, de rappeler à tout moment au gouvernement de ne pas pouvoir se méfier de ces élections-là qui ont plus d'effets d'entraînement sur les autres élections. Et pour cela, il faut plutôt prioriser les élections présidentielles au lieu des autres élections législatives, municipales qui peuvent se retarder et on pouvait encore les récupérer après 2016.
Mais voilà, Henri, le problème ne se pose pas parce que le gouvernement congolais ne s'est pas prononcé jusque-là quant à ceux pour dire, mais voilà, il n'est pas à même de pouvoir organiser d'autres scrutins, mis à part la présidentielle et les législatives. Donc jusque-là, nous devons prendre notre mal en patience, d'autant plus que cela n'a pas été clairement défini. Mais plutôt, l'autorité électorale s'est prononcée sur certaines contraintes qui pourraient, au fait, disons, constituer donc des obstacles pour l'organisation de ces élections. Voilà, donc c'est juste à ce niveau. Mais est-ce que vous pensez comme d'autres qu'il faille aujourd'hui impliquer aussi la population au moment où tout sera peut-être difficile de mobiliser au maximum les ressources financières pour organiser ces élections?
On peut toutefois recourir à la population, mais il faut passer aussi à ces pauvres populations qui n'ont même pas de revenus, comment on les prend, donc ils peuvent encore prendre en charge les électeurs qui coûteront pour ces.
Voilà, merci beaucoup Henri. Merci beaucoup Henri. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, nous poursuivons avec vous, chers auditeurs. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons en ligne honorable José Makila depuis Paris. Bonjour, honorable.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, alors, monsieur José Makila, vous êtes avec nous. La communauté internationale est prête à soutenir en priorité, j'insiste bien, l'organisation des élections présidentielles et législatives en RDC pour respecter la constitution congolaise, a indiqué mercredi à Kinshasa le ministre belge des Affaires étrangères. Vous venez de suivre les uns et les autres. On sait que de l'avis des uns et des autres, ce soutien ne devrait pas empêcher donc la RDC de financer seule toutes les élections. Et par contre, une opinion estime que la RDC devrait se passer plutôt du soutien financier de la communauté internationale. Alors, comment vous réagissez?
En tout cas, en ce qui les concerne, je salue la proposition de la communauté internationale, mais qu'à cela tienne, j'ai deux éléments à expliquer ici. Le premier élément, c'est le gouvernement, la responsabilité du gouvernement. Je risque de prévoir, est-ce que le gouvernement m'attaque? Depuis 2011, je ne savais pas qu'en 2016, on aura des élections. Ou au cours de ce mandat ici, de 2011 à 2016, il y aura des élections provinciales, par exemple. Et pourquoi ils n'ont pas prévu de l'argent pour cela? Deuxièmement, c'est la CENI. Son budget, je trouve que c'est un budget qui est superfétatoire. C'est-à-dire, la CENI a exagéré en ce qui concerne le budget d'1 milliard 145 millions 608 000 dollars. Si nous prenons les élections de 2006, où il y avait deux tours de la présidentielle, il y avait les élections législatives, provinciales, sénatoriales et gouvernementales, la CEI à l'époque avait dépensé 480 millions de dollars. Bon. Aujourd'hui, la CEI nous ramène à 1 145 millions de dollars. Je me pose la question, tout simplement parce que la CEI a annexé les élections locales et municipales. Moi, je pense que les élections locales et municipales ne sont pas une chance. Ce qu'il faut s'attaquer cette année, à mon humble avis, c'est d'abord les élections provinciales. Il faut qu'on puisse avoir des nouvelles assemblées provinciales, un nouveau Sénat et de nouveaux gouverneurs, parce qu'ils sont légitimement, ils sont plus valables. Légalement, oui, d'après la Constitution, parce qu'on ne peut avoir une autre assemblée, que s'il y a une autre assemblée élue, vous venez la remplacer. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2015, le gouvernement devra mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour organiser les élections provinciales, d'abord. Et en 2016, la communauté internationale pourra nous aider pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Voilà mon avis là-dessus.
Mais alors, mais je ne sais pas, pour certains observateurs, la population ne devait pas redouter quoi que ce soit, parce que dans la mesure où ces élections n'ont pas toutes les mêmes formats, il y a des élections directes et d'autres élections indirectes, ce qui veut dire que ça n'aura pas le même coût.
Non, nous ne devons pas, la CENI ne doit pas amener des diversions dans les élections. Ce qui urge aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est les assemblées provinciales pour que nous ayons de nouveaux gouverneurs et un nouveau Sénat. Ça, c'est urgent. Et à mon avis, l'argent devrait être là. Le budget devrait être là, à la disposition de la CENI. En 2016, la communauté internationale va nous aider, comme elle a déjà donné des promesses par-ci par-là, va nous aider pour que nous allions à l'élection présidentielle et législative. Il n'y a pas de manœuvre à faire là-dedans. C'est le gouvernement en soi. D'abord, les élections se préparent. Les élections ne se préparent pas en 2-3 jours ou en 2 ans avant qu'on puisse affronter les échéances. Non, pas du tout. Gérer, c'est prévoir, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc, la population n'a qu'à prendre le calme, avoir la patience, parce que ce gouvernement, s'il est réellement un gouvernement responsable, devra mettre incessamment du budget à la disposition de la CENI. Et à la CENI aussi, c'est pourquoi moi je demande à la communauté internationale, si vous voulez bien nous aider, de revoir le budget de la CENI. De revoir ce budget-là, parce que moi je trouve que c'est de la distraction. C'est de la distraction. La CENI ne voudrait pas que nous allions aux élections parce que la CENI nous met de personnes malheureuses en nous donnant un budget excessif. Sachant que nous avons suivi le budget qui nage autour de 3-4 milliards de dollars par an, à ce nous sommes un budget de plus d'un milliard et demi.
Mais voilà, oui, honorable député, oui, honorable José Makila, si nous restons dans les cas des figures que le gouvernement a mobilisé les ressources pour organiser toutes les élections, je crois que le problème ne se posera pas et le débat n'aura pas lieu, n'aura plus de sens. Parce que jusque-là, il ne s'est pas prononcé, le gouvernement n'a pas dit qu'il est incapable.
Ça, c'est un aspect. Mais les élections, ce n'est pas seulement le budget mis à la disposition de la CENI. C'est aussi cette fameuse loi promulguée. Où a-t-on vu qu'on puisse exclure une catégorie de Français qui n'ont pas assez de moyens? Un enseignant, par exemple, qui est populaire, il veut travailler pour son pays, il sera peut-être un très bon député, qu'on lui demande de donner 500 000 francs congolais comme caution électorale pendant qu'il ne gagne que 50 000 francs par mois. Vous voyez que les élections, maintenant, c'est pour les nantis. Donc la politique est réservée aux nantis. Ce n'est pas normal. C'est l'injustice.
Alors donc, pour vous, c'est vrai, il faut beaucoup plus prioriser les élections provinciales et aussi aller vite à la présidentielle et législative. Question de faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo, mais tout à l'heure, il y a un auditeur qui a insisté sur les élections, quand elles sont tenues régulièrement, c'est quand même un domaine de la souveraineté et surtout quand et ces élections sont gérées par les pays la RDC elle-même. Donc là, c'est vraiment un domaine de la souveraineté. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que venait de dire Maurice tout à l'heure?
Oui, il a raison, mais le budget aussi, c'est un domaine de la souveraineté. Quand nous votons le budget, nous tenons compte des apports extérieurs. Le budget, c'est un domaine de souveraineté. Vous ne pouvez pas dire que votre maison sera nourrie par le voisin, non. Mais quand nous faisons le budget, nous tenons compte de l'apport extérieur. Donc, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si les partenaires veulent nous aider pour aller de l'avant en ce qui concerne notre démocratie, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous-mêmes, nous devons compter sur nos propres efforts d'abord, avant que les partenaires nous donnent quelque chose. Il est vrai que quand on vient nous aider pour que nous puissions aller de l'avant en ce qui concerne la démocratie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas qu'on perd notre souveraineté, non. Mais le monde a été fait ainsi. L'homme, c'est la complémentarité. Donc, on se complète, nous sommes dans le concept des nations. Donc, je ne vois pas en mal si la communauté internationale nous fait un effort pour que nous puissions consolider notre démocratie.
Voilà, honorable José Makila, nous vous gardons en ligne. Il est temps de prendre Gabriel qui est à Kikwit et Clovis à Mbujimayi. Gabriel, bonjour. Gabriel, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Gabriel.
Oui, je voulais, mon intervention se situe à deux niveaux.
Oui, allez-y. Oui.
Le premier niveau, au niveau d'abord de la commission électorale. Dans la gestion interne, il faut de temps à autre quand même un audit, parce qu'on a vu, lorsque Melate Palomalo est entré pour la seconde fois ici, il a mener une opération de récupérer des véhicules chez les ex-agents qui ont travaillé avec le comité sortant. Ça signifie que là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, si on a récupéré le véhicule, c'est que la CENI en avait acheté en plus. Au lieu d'utiliser juste le nombre qu'il fallait, le budget est allé au-delà. Ça, c'est un. Deuxièmement, passer dans les secrétariats provinciaux. Vous regardez, vous verrez le nombre de véhicules en panne stationnés dans des bureaux des secrétariats provinciaux. Peut-être les réparations demanderaient moins, parce que dans le budget qu'ils présentent actuellement, il y a les charrois automobiles qui prend aussi une place importante. Et si la gestion était correcte, je crois que ça réduirait d'abord ce budget dont sera présenté. Ça, c'est une première observation. Dans le deuxième volet, au niveau du gouvernement, qui a la gestion des élections dans le pays, comme les prédécesseurs m'ont dit, les élections ne s'organisent pas à une fois. à une année seulement. Donc, il y a 5 ans de mandat, et chaque mandat, chaque année, il y a un budget qui est élaboré. Quelle était la part prévue pour les élections futures? Ça, c'est un. Moi, je ne vois pas une maison, un ministre congolais, un député, un sénateur, un directeur général qui fait le budget de sa maison, le budget mensuel pour sa famille, et qui dit, moi, nous avons l'habitude de consommer 3 sacs de riz, mais cette fois-ci, je dispose de 2, et le troisième sac va venir des amis que nous avons dans la ville ou dans le pays. Eh bien, alors, mais si cela ne venait pas, parce que notre budget est aux environs de 4 et 5 milliards, ça signifie que chaque année, comme tous les autres m'ont dit, mon précédent, qui ont dit, on devrait mettre quelque chose de côté. Mmh. Et on peut même aller à organiser une collecte. Les Congolais ont toujours fait accepter cette idée-là. Demander peut-être 1000 francs à chaque Congolais, c'est question d'être des structures fiables pour que l'argent ne soit pas détourné. Parce qu'on doit mettre cet argent. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les 4-5 milliards de budget du gouvernement, on va retirer 1 milliard et quelques. Donc, il reste seulement 2 milliards et quelque chose dans l'exécution de son programme. Parce que ce qu'ils ont demandé, ce sont les partenaires qui vont donner. Nous sommes sur le chantier international, c'est vrai. Mais s'ils ne donnaient pas, est-ce qu'on a commencé d'abord à demander cet argent pour voir comment ils vont l'obtenir? Mmh. Alors, voilà un peu. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement soit déjà, je respecte moi. Ceux qui sont au gouvernement sont déjà intelligents. Il y en a qui ont fait les universités au Congo et à l'étranger. Donc, pour prévoir seulement un montant dans le budget pendant 5 ans, est-ce que ça, il faut faire encore une université à part? Aller faire des études à part pour ça.
Voilà, merci Gabriel. Gabriel, voilà. Si je comprends bien votre souci, c'est que le gouvernement doit se prononcer maintenant, que nous dise qu'est-ce qu'il a en main, sous la main. Sinon, bon, on garde le flou et les gens vont spéculer. Comme on dit toujours, la nature a horreur du vide. Et plus que, dès lors que le gouvernement ne se prononce pas là-dessus, l'opposition qui n'est pas l'autorité électorale doit publier son calendrier aussi et définir les priorités. La communauté internationale, de l'autre côté, en définit également les priorités selon elle. Et vous aussi, la population, vous tirez dans tous les sens. Alors, donc, si je comprends bien pour vous, c'est le moment où le gouvernement doit se prononcer parce que les élections provinciales, c'est dans quelques mois. Ce n'est plus pour longtemps. Voilà, Gabriel n'est plus en ligne, je crois.
Oui, c'est-à-dire, pour les élections sénatoriales et provinciales, cela, c'est vrai, c'est une priorité. D'abord, ils sont en train de consommer le budget inutilement, en dehors des textes. On devrait prendre une décision pour arrêter, parce que ils se prennent toujours dans cette
limite. Voilà, Gabriel, j'ai compris. Nous avons compris. Vous avez rejoint pratiquement honorable député José Makila qui intervenait tout à l'heure, qui selon lui, il estime que on peut aller directement aux élections provinciales. Question de pouvoir terminer un peu les arriérés électoraux. Merci beaucoup, Gabriel. Clovis, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Clovis.
Bonjour JR, bonjour à tous les amis de la radio Capi, bon début de semaine à tous.
Voilà, vous avez la parole Clovis, quel est votre point de vue?
Mon point de vue par rapport à la tenue des élections ici en RDC, je pense que nous avons un gouvernement, les amis l'ont déjà dit, je pense que tout ne se prépare pas d'un coup. Je l'ai dit même dans mon message que non, on ne peut rien faire. On ne peut pas se dépasser, dire que non, notre État n'est pas capable, mais il est capable. Nous voyons maintenant le temps record. Est-ce que réellement nous allons organiser? On n'a pas beaucoup d'infrastructures. On n'a pas vraiment, en matière de logistique, nous n'en avons pas. Comment est-ce que le gouvernement seulement doit débloquer ce montant d'argent et donner à la CENI.
Mais
Clovis. La CENI qui est un organe technique et qui connaît que non, qu'il y a des contraintes qui peuvent empêcher la tenue normale des élections. Moi, ce que je pense, que non, le gouvernement congolais doit seulement accepter l'aide de la communauté internationale. Il n'y a pas longtemps que les États-Unis d'Amérique se sont dit prêts de donner aussi l'argent. Nous avons suivi aussi le ministre Bel qui en a parlé. Donc, c'est vraiment impératif. Je pense qu'on doit commencer tout d'abord par les élections provinciales, les élections sénatoriales, pourquoi pas aussi des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pourquoi? Puisque on doit prouver tout d'abord la légitimité. Ça fait longtemps que ces gens-là se trouvent déjà. Voilà. Ils ont déjà largement dépassé leur mandat. Et nous trouvons qu'il y a certains députés provinciaux qui sont même, qui ne s'intéressent même pas à l'Assemblée provinciale, des fois ils s'intéressent déjà aux activités, les autres sont devenus des assistants dans des institutions universitaires. Vous trouvez qu'ils sont déjà fatigués même de mandat. C'est ainsi qu'en 2015, voilà, on doit tout d'abord commencer avec les élections tout d'abord provinciales, des vice-gouverneurs et des sénateurs. Et en 2016, on doit alors chercher l'aide de la communauté internationale pour que les élections législatives et présidentielles puissent avoir lieu. Je crois que si ces élections-là présidentielles vont se tenir dans les délais légaux, le président, l'actuel président, le président Joseph Kabila, aura vraiment une bonne réputation parce qu'il sera l'unique président à la République démocratique du Congo à avoir organisé les élections et à avoir cédé la place à ses collègues. Sinon, merci. Nous allons assister à un chaos.
Merci beaucoup, Clovis, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio pour recevoir Tshibangu Kalala, professeur Tshibangu Kalala. Nous venons là de suivre les auditeurs qui ont émis leur point de vue par rapport à cette thématique. Et il y a eu également l'honorable député José Makila qui est intervenu depuis Paris, hein, qui est encore en ligne. Alors, vous venez de suivre, donc, lorsque vous avez fait votre entrée dans ce studio, vous avez suivi quand même quelques auditeurs et quelques messages que nous avons lus à la. Alors, quelle est votre réaction? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, faut-il laisser à la communauté internationale qui est prête à soutenir en priorité l'organisation des élections présidentielles et législatives? Donc, c'est comme pour dire qu'ils sont prêts uniquement pour ces élections-là, donc pas pour d'autres. Hein, voilà, donc le reste, c'est la responsabilité de la RDC. Mais entre-temps, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé.
Bien. Monsieur Jaringo, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir associé à cette émission. Dans un premier temps, je vais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour m'adresser aux auditeurs de Radio Écopique qui suivent cette émission et à travers eux, à la société politique et à la société civile de notre pays. Pour dire ceci, M. Gérard Ndombo, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous tous, c'est le peuple congolais. Quelque chose qui est plus grand que nous tous, c'est la RDC. Notre pays est engagé aujourd'hui dans un processus électoral qui comporte beaucoup d'espoir, mais également beaucoup de dangers. Et donc, nous devons tous faire preuve d'humilité. Il n'y a personne qui doit bomber la poitrine pour dire que lui, il est plus grand que tout le monde, qu'il est plus intelligent, plus fort que le peuple, plus fort que la RDC. Et donc, plus que jamais, M. Jean Combo, il faut que nous puissions construire des ponts et des passerelles pour que les acteurs politiques, les acteurs civils se parlent. Nous devons nous mettre d'accord. Nous n'avons pas à nous battre sur le calendrier électoral. Nous devons être capables aujourd'hui, Jean Combo, de pouvoir construire des compromis. Pas des compromissions. Mm-hmm. Donc, nous devons construire des compromis. Les peuples congolais, les acteurs politiques doivent se parler.
Mais dès lors qu'on a déjà publié les calendriers globaux, la loi électorale a été promulguée, est-ce qu'il faut encore trouver des compromis? Il faut encore des consensus.
Je ne suis pas favorable à des discussions.
La communauté internationale
à des messes.
Oui.
À des messes auxquelles on est habitué, de dialogue, etc. Non. Mais ce calendrier a le mérite d'exister. Mais vous avez suivi.
Mais là, il faut mobiliser les ressources.
Il faut
mobiliser les ressources.
Il faut exécuter ce calendrier, mais il faut être responsable. Il ne faut pas s'engager dans l'exécution de ce calendrier et nous amener dans un imbroglio électoral. Et donc, s'il y a des voix discordantes en ce qui concerne l'organisation des élections, les uns disent qu'il faut commencer par les provinciales, etc., qui sont utiles. Je vois Clovis de Mougemaille qui l'a dit également, et beaucoup d'autres. Les gens disent, écoutez, mais il faut commencer par la base. Donc, on doit construire la démocratie à partir de la base, locale, municipale, etc., et monter sur le chemin classique. Bien, s'il y a des divergences sur ce point-là, il faut qu'on discute pour se mettre d'accord, qu'il y ait un consensus à ce sujet.
Quand est-ce qu'il faut discuter?
Mais là, c'est l'organisateur, le pouvoir organisateur qui doit agir. C'est la CENI qui doit enregistrer sur ceci. Je vais vous donner l'exemple du sujet Longuembo. Les élections locales, municipales, etc. On peut encore trouver de l'argent, je suppose, pour les organiser. Mais qui a déjà budgétisé le fonctionnement des organes qui seront mis en place? On aura presque 20 000 nouveaux politiciens payés. C'est quoi l'ordre? Ces assemblées politiques, qu'on va être dans les secteurs, dans les chefferies, dans les comités, ça va fonctionner comment? Qui va les financer? D'où viendra l'argent? Nous avons des assemblées provinciales qui sont là. Il y en a qui ont toutes les peines du monde pour pouvoir fonctionner. Ne serait-ce même pour payer les députés provinciaux. Il y en a qui ont des arriérés d'indemnité de mois et des mois. Mais là, on va multiplier ces assemblées. Qui a déjà budgété cela? Deuxième problème. Mais les groupements qu'on nous présente comme étant des circonscriptions électorales et des chefferies, ce sont des monarchies. Nous avons une république qui cohabite avec des monarchies.
C'est pourquoi, la communauté internationale propose pour en fait qu'on reste dans le respect de la constitution, d'organiser, de prioriser simplement les législatives et la présidentielle.
Je vais terminer ma pensée. Les limites entre les groupements, les circonscriptions. C'est des limites entre des monarchies. Ça va,
oui, pour c'est beaucoup
de problèmes. Et donc, ça pose
tout ça, c'est connu, tous ces problèmes, les contraintes ont été présentées par la CENI, les acteurs politiques de part et d'autre. En tout cas, il faut que toutes ces contraintes politiques qui ne peuvent pas être favorisées, en fait, l'organisation des élections. Mais maintenant, parce que nous sommes constitutionnellement, à la fin, par exemple, du mandat des chefs de l'État actuel, la loi telle que promulguée, j'imagine, hein, en tout cas, les observateurs imaginent qu'effectivement, nous allons droit aux élections présidentielle, constitutionnellement par rapport à la loi électorale et le calendrier global. Alors pourquoi ne pas privilégier comme l'ont souhaité certains membres de la communauté internationale et laisser un peu de côté, par exemple, comme vous l'avez dit, vous avez évoqué un aspect très important, les locales, parce qu'il faut d'abord chercher à budgétiser aussi cela, rémunérer toutes ces personnes qui vont, les animateurs de ces nouvelles institutions. Alors, privilégier directement parce que la communauté internationale est prête à financer des élections législatives. Pourquoi ne pas aller, parce que quelqu'un qui peut vous aider?
Alors, je vais répondre précisément à cette question-là. Je veux dire qu'il faut éviter que la démocratie puisse coûter plus cher que le développement. Vous voyez, dans l'espace de 18 mois à peu près, est-ce que notre pays est en mesure de dépenser plus de 1,5 milliard de dollars par an? Est-ce que la démocratie doit coûter plus cher que le développement? Eh bien, moi, j'ai dit non. Et donc, je pense, et je donne là mes avis personnels, c'est mon opinion personnelle, je pense que si on n'est pas en mesure de dépenser plus d'un milliard, 145 millions de dollars dans l'espace de 18 mois, et en voyant l'état de notre trésor public aujourd'hui, je pense qu'il y a des élections, on peut se mettre d'accord pour demander à la CENI qu'écoutez, les élections locales et municipales sont certes utiles pour l'ancrage de la démocratie à la base, c'est utile, etc., mais que pour cette période, compte tenu des difficultés que ça veut provoquer, qui ne sont pas encore résolues, compte tenu du coût global des élections, parce que nous avons des projets de développement, écoutez, on peut se mettre d'accord dans un consensus.
Mais qui doit convoquer?
Je vais y arriver. Et donc, on peut postposer certaines élections. Et mettre en priorité les élections provinciales qui vont nous permettre de régler, du moins pour cette année 2015, de régler le problème du bon fonctionnement des institutions.
Et c'est quoi? Alors, doit reposer sur quel cadre juridique?
Écoutez, qui a, je vais vous expliquer, la CENI a mis en place des comités de liaison. Comité de liaison avec la société civile, comité de liaison avec les partis politiques. Donc, à l'issue de toutes ces discussions, eh bien, la CENI qui a proposé ce calendrier peut appeler ces gens. En disant, mais je veux vous écouter, quels sont les points que vous avez? Les partis politiques vont s'expliquer, parce que le ministère. Et en ce moment-là, la CENI elle-même peut changer son calendrier, parce que c'est une décision de la CENI. Et en tant qu'auteur de cette décision, la CENI peut modifier sa propre décision.
Voilà.
Et donc, on peut discuter dans ce cadre-là.
Merci
je
beaucoup.
Ne pense pas qu'il y ait de rencontres
oui,
à ce qui se
dialogue,
etc. C'est une décision technique. Il faut que la CENI qui a proposé ce calendrier.
Mais il faut que la CENI aussi accorde le bénéfice de l'urgence à cette question, parce que les élections, le calendrier tel que présenté, et en tout cas, il n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a pas, c'est juste deux mois, le mois d'avril.
La CENI a bien fait le travail. À présenter un calendrier d'un côté et de l'autre, à présenter des difficultés. En disant, monsieur, si vous voulez que moi, CENI, je respecte ce calendrier, alors il faut m'aider à régler tel problème. Je dis que ce calendrier, ce n'est pas un calendrier de la CENI, c'est le calendrier de la RDC. C'est le calendrier du peuple congolais, parce que le peuple congolais qui va aux élections. Et donc, il faut faire une consultation avec la CENI au centre. Et pour que la CENI modifie sa décision.
Voilà. Donc, elle peut modifier la décision que la CENI. Donc, c'est la CENI qui a blessé à pouvoir réunir les points de vue des uns des autres. Alors, honorable José Makila, vous êtes depuis Paris. Vous venez de suivre professeur Chimamou Kalala. Comment vous réagissez?
Ben, le professeur a tout à fait raison. Je fais mienne cette proposition. La CENI doit proposer les élections locales et municipales. Prioriser les élections provinciales afin qu'on puisse avoir un nouveau Sénat, un nouveau gouvernement. Et en 2016, nous respectons la Constitution, nous avons tout droit à l'élection présidentielle et les élections législatives. Oui. Parce que si la CENI ne nous facilite pas la tâche, comme a dit le professeur tout à l'heure, nous allons tout droit vers un mur. Et cela ne profite à personne. Retenons ce que le professeur a dit. Il y a deux choses qui sont utiles. Le peuple congolais et la République démocratique du Congo. C'est hyper, hyper important. Et c'est une leçon que tout le monde doit retenir. Que ce soit les institutions comme les institutions nationales, comme les institutions à l'appui à la démocratie, telles que la CENI.
Voilà. Honorable, nous vous gardons encore en ligne avant de vous accorder la parole pour conclure. Tony, vous êtes à Kolwezi, docteur Richard à Kinshasa. Tony, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur J.R. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Tony. Quel est votre point de vue?
Oui, merci beaucoup. Je voulais juste donner une petite contribution par rapport à ce qui est en train de se dire sur ce plateau. C'est-à-dire, d'après mon point de vue, je pense que la CENI a fait son travail et devait le faire, parce qu'il y avait une pression par rapport à donner un calendrier global. Et la CENI a donné son calendrier global. Maintenant, c'est à nous de comprendre qu'il y a un problème très sérieux de financement ou bien du budget pour réaliser ce calendrier global. Moi, je pense que aussi, il fallait encore demander à la CENI d'avoir, de faire un autre petit exercice, de pouvoir subdiviser chaque étape par rapport à son budget. Et maintenant, ça dépendra maintenant que les politiques demandent maintenant de voir quelle est l'importance par rapport à chaque élection. Moi, je pense que aussi par rapport à la communauté internationale, qui s'est mis prêt peut-être à financer, qu'ils puissent prendre par exemple la troisième partie, qui est celle des élections
présidentielles et législatives.
Voilà. Maintenant, quant aux deux étapes là, précédentes,
c'est le gouvernement.
Maintenant, trouver qui le gouvernement peut le faire. Parce que là, la dernière étape, c'est là qu'il y a le problème. Il faudrait que nous puissions être à mesure de se dire les vérités. Là, il y a le problème, c'est la dernière étape. Est-ce que les gens se posent des questions? Si le gouvernement finançait ce qui est avant, mais est-ce qu'à la fin, il sera à mesure, il y aura quelque chose pour financer
les
maintenant, si la communauté internationale veut vraiment nous aider, qu'il n'y ait pas de problème, nous ne voulons pas de problème au Congo, voilà, qu'ils prennent la charge, et bon, voilà, moi, les élections présidentielles et législatives, c'est notre étape. Quant au reste, tout peut arriver. Comprenez que la crainte, c'est juste la dernière étape.
Merci.
Quelque chose encore pour l'organiser.
Voilà. Merci beaucoup, Tony, pour vous. Vous rejoignez carrément l'idée de pouvoir prioriser l'organisation des élections présidentielles et législatives, mais à mettre en charge de la communauté internationale, mettant d'autres élections, c'est que le gouvernement pourrait mobiliser les ressources afin d'atteindre l'objectif. Merci beaucoup, Tony. Richard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour J.R., bonjour au professeur que je félicite parce que il a une sagesse qui m'a ému. Il a dit quelque chose
deux choses d'ailleurs de plus grande valeur. Qu'on n'oublie pas que rien ne peut être plus grand que le Congo et le peuple congolais. Deuxièmement, qu'on n'oublie pas que il faut beaucoup plus d'avancées pour le développement que pour la démocratie boiteuse du Congo. Alors voici ma position. Nous sommes, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, amoureux de la gestion politique du pays, dans l'improvisation et dans les mythes des individus. Il faut qu'on s'en débarrasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les partis politiques, la société civile qui doivent travailler là-dessus. Un mandat, c'est un mandat. Pourquoi il y a des querelles autour des élections? C'est parce que nous avons l'immaturité dans plusieurs domaines. Alors, pour les élections, faut-il toujours accepter que le mec qui donne nous dicte des noms? Non. Commençons à cotiser dès maintenant pour nos élections. Moi, je suis prêt à donner mon petit salaire de pauvreté de médecin aux élections du Congo. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes politiques nous ont donné? Ruine, esclavage de multiformes, des rébellions qui ont tué des gens, la grâce aux rebelles, etc. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Qu'est-ce qu'on a gagné?
Merci beaucoup, docteur Richard. Nous retenons deux choses, le mythe et l'improvisation. Je crois que d'autres de vos prédécesseurs l'ont même si bien dit qu'il faut vraiment gérer, c'est prévoir. Donc, il faudrait qu'on entre dans cette logique-là, qu'on s'inscrive dans cette logique, dans cette dynamique depuis pour toute notre vie. Et surtout qu'on sait que régulièrement, tous les 5 ans, selon la loi électorale, donc nous aurons à organiser les élections dans ce pays, on entrera dans cette. Donc il faudrait quand même qu'on se mette vraiment dans cette responsabilité-là. Merci beaucoup. Alors on va conclure avec nos invités, honorable José Makila, qui est depuis Paris, qui est en ligne, et puis pour l'opposition, et puis professeur Chibangu Kalala, à tendance majorité. Voilà, donc José Makila, vous êtes avec nous, monsieur José?
Oui.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que ce n'est pas la position de l'opposition, mais en tant que citoyen congolais, vous pensez que, comme l'ont dit certains auditeurs, que la communauté internationale se charge si vraiment on tient à nous aider, parce qu'aujourd'hui, la contrainte financière s'épose avec acuité, s'occupe uniquement de l'organisation de la présidentielle et des législatives, et des autres élections seront prises en charge par le gouvernement congolais.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. La communauté internationale vient en complément. Ça, c'est un travail exclusif du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, sachant que nous avons un cycle électoral de 5 ans, devrait prendre tout ça en considération. Mais aussi, monsieur le journaliste, il faut que nous puissions organiser un outil pour contrôler la gestion de
la CENI.
Savoir comment la CENI est arrivée à un montant d'un milliard 145 millions 608 000 dollars par rapport aux élections de 2006 qui ont coûté 480 millions. C'est très important. Et nous avons à notre disposition un outil qui s'appelle la Cour des comptes qui peut facilement faire ce travail. Deuxièmement, il faut que le gouvernement nous dise combien il dispose. Le gouvernement n'a pas à se taire là-dessus.
Voilà, donc il doit se prononcer.
Le contribuable doit savoir combien il a gardé dans sa judiciaire pour les élections.
Voilà, M. José Makila, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en séjour à Paris et pendant vos vacances, donc vous avez accepté facilement d'accorder votre participation à ce débat. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, professeur Chibangu Kalala, on va conclure avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il faudrait attendre toujours que la communauté internationale puisse prendre charge? Mais alors, est-ce qu'il faudrait qu'en ce moment, parce que les temps fait défaut, que le gouvernement se prononce là-dessus, comme ça pourrait faire taire toutes les spéculations.
Oui, comme M. Tita, et au grâce à Tita Benfoujima, il a dit, bon, c'est lui qui vous nourrit, qui domine. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On peut exprimer cette idée de plusieurs manières. C'est vrai que dans le Congo idéal, messieurs, dans un Congo, une RDC idéale, on ne pouvait pas accepter de l'argent qui vient de l'extérieur pour organiser des élections. Pour que le peuple congolais choisisse ses propres dirigeants, ses propres chefs, cela doit être financé par des étrangers. Mais nous sommes en face d'un Congo réel, une RDC réelle, qui n'a pas tous les moyens nécessaires pour régler son problème. Et donc, on a besoin de l'aide extérieure. Ça ne doit pas être une honte, je comprends. Vous savez, le Nigeria, qui est la première puissance économique du continent, vient d'appeler les États-Unis pour l'aider à combattre Boko Haram. Donc on a toujours besoin de quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas de monde. Donc ça ne doit pas être une honte. Mais dans l'idéal, dans un Congo idéal, nous devons régler cette problématique nous-mêmes. Première chose. Deuxième problème, je vais conclure par là, comme je vais commencer. Eh bien, nous devons être réalistes. Gouverner, c'est prendre rendez-vous avec des réalités qui sont là. Gouverner, c'est anticiper sur les événements. Précéder les événements et ne pas être derrière les événements. Eh bien, nous devons éviter d'entrer dans un imbroglio électoral qu'on ne va pas contrôler, qui va déraper, comme en 2011. Eh bien, il n'y a pas de honte aujourd'hui, et moi je rends la CENI responsable, c'est elle qui doit jouer ce rôle, c'est elle qui est une institution d'appui à la démocratie, et le peuple congolais lui a confié cette responsabilité dans la Constitution, elle doit jouer pleinement son rôle. Elle doit appeler les acteurs politiques, les structures existent, appeler les acteurs sociaux, la structure existe, pour discuter du calendrier et arriver à modifier ce calendrier. Et donc il faut, à mon avis, c'est mon avis personnel, je ne parle qu'au nom de moi-même, même pas au nom de ma femme et de mes enfants, qui peuvent contester ce que je dis. Donc, il faut postposer les élections locales, municipales et urbaines. S'il y a de l'argent, on peut faire cette économie pour mettre de l'argent dans l'économie, dans le développement, et se concentrer sur les élections provinciales, etc. Et plus tard, présidentielles, avec le soutien de la communauté internationale. Ça, c'est mon point de vue.
Professeur Toubou Kalala, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout avec une certaine promptitude, nous avons pu y appuyer le V. Merci et à très bientôt.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ces débats citoyens. Nous disons merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie César Bongonda, une émission qui vous a été présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. A très bientôt pour un autre numéro.